Walter Scott, Quentin Durward. Chapitre 5, Les Bohémiens. Quentin Durward, en réfléchissant sur son entrevue avec son oncle, éprouvait un mélange d'embarras et de désappointement. À Glen Ullachine, on avait toujours considéré le balafré comme un héros, et il n'y avait qu'une voie pour louer son courage et son succès dans les petites entreprises que son maître lui avait confiées. L'imagination de Quentin avait complété le portrait. Il avait comparé cet oncle aventureux, dont les exploits ne perdaient rien à être racontés par lui-même, à quelques-uns de ces champions ou chevaliers errants qui fournissaient matière au chant des ménestrels et qui gagnaient des couronnes et des filles de rois à la pointe de l'épée et de la lance. Il se voyait désormais contraint d'en rabattre sur son compte. Et encore, aveuglé par le profond respect des liens de parenté, il ne voyait pas sous son vrai jour le caractère de son oncle, qui n'était après tout qu'un vulgaire mercenaire, ni pire ni meilleur que les autres. Sans pénétrer jusqu'au fond du caractère de son oncle, Quentin lui en voulait d'avoir appris avec tant d'indifférence le massacre de toute la famille de son beau-frère. Et puis il avait été désagréablement surpris de voir un parent si proche ne pas même songer à lui ouvrir sa bourse. Il avait tort cependant d'attribuer à l'avarice ce qui n'était que le fait de l'indifférence. Quoi qu'il en soit, Quentin Durward en était à regretter de n'avoir pas pris de service auprès du duc de Bourgogne, avant de s'être querellé avec son forestier. Il regrettait aussi de ne pas avoir trouvé jour à questionner le balafré sur le compte de Maître Pierre. Mais le balafré avait lui-même trop de questions à faire, et la cloche de Saint-Martin avait terminé trop brusquement l'entrevue. En somme, Maître Pierre, avec ses caprices, ses manières impérieuses et son aspect peu agréable, s'était montré meilleur pour lui que son proche parent. Il faudra, se dit-il, que je sache au juste qui il est, et ce ne sera pas bien difficile, s'il est aussi riche que le prétend l'hôtelier. Il me donnera un bon avis pour ma gouverne, et s'il voyage en pays étranger, comme le font souvent les gens de son espèce, je ne vois pas pourquoi son service ne vaudrait pas, pour un aventurier, celui des gardes de Louis. Tout en se livrant à ses réflexions, Quentin Durward avait gagné la campagne. Sur une légère éminence qui dominait les rives du Cher et où aboutissait le sentier suivi par Durward, s'élevait un groupe de grands châtaigniers, de l'effet le plus pittoresque. Près de ce groupe d'arbres se tenaient trois ou quatre paysans, immobiles, les yeux levés sur quelque objet placé entre les branches du châtaignier le plus rapproché d'eux. Quentin, dont la curiosité était éveillée, doubla le pas et arriva à temps pour assister à l'horrible spectacle que contemplaient les paysans. Un homme, pendu à l'une des branches, se débattait dans les dernières convulsions de l'agonie. « Pourquoi ne coupez-vous pas la corde ?» dit le jeune Écossais, aussi prompt à assister les affligés qu'à défendre son propre honneur quand il le voyait attaqué. Un des paysans, pâle comme un mort, le regarda d'un air épouvanté et lui montra, entaillée dans l'écorce, une fleur de lys grossement figurée. Ne comprenant ni la signification ni l'importance de ce signe, Quentin grimpa lestement dans le châtaignier et, se mettant en mesure de couper la corde, cria aux paysans de recevoir le corps dans leurs bras. Les paysans, au lieu de lui obéir, semblèrent épouvantés de son audace et prirent tous la fuite, craignant apparemment de passer pour ses complices. Le corps tomba lourdement sur le sol, et Quentin eut la mortification de voir que le pendu avait cessé de vivre. Il ne voulut pas du moins abandonner son œuvre de charité sans avoir tenté un dernier effort. Ayant desserré le nœud coulant et ouvert le pourpoint, il jeta de l'eau sur la face du malheureux, et fit enfin tout ce qu'on a l'habitude de faire en pareille circonstance. Pendant qu'il s'occupait ainsi à son œuvre d'humanité, il entendit autour de lui des cris sauvages, poussés par des gens dont il ne comprenait pas le langage. Il avait à peine eu le temps de s'apercevoir qu'il était entouré d'hommes et de femmes, revêtus de costumes étranges et bizarres, qu'on lui saisit brusquement les deux bras, et la pointe d'un couteau menaça près de sa gorge. Est-ce que vous le volez après l'avoir assassiné? Lui dit un homme au mauvais français. Mais nous vous tenons, et vous nous le paierez. Quoique entouré d'ennemis armés et menaçants, le jeune Écossais n'eut pas peur, et ne perdit pas sa présence d'esprit. Que voulez-vous dire, mes maîtres? Demanda-t-il. Si ce corps est celui d'un de vos amis, je viens de couper la corde, par pure charité, et vous feriez mieux de tâcher de le ranimer que de maltraiter un étranger innocent, auquel il devra la vie, s'il en réchappe. Les femmes, cependant, avaient pris possession du corps. Elles continuaient les tentatives de Durward pour le rappeler à la vie, mais sans plus de succès. Alors, renonçant à tout espoir, ces gens semblèrent s'abandonner à toutes les manifestations de la douleur usitée en Orient. Les femmes poussaient des cris déchirants et arrachaient leurs longs cheveux noirs. Les hommes faisaient le geste de déchirer leurs vêtements et de se couvrir la tête de poussière. Peu à peu, ils furent si absorbés par la célébration de leur rite funéraire qu'ils ne firent plus attention à Durward. Peut-être d'ailleurs avait-il reconnu son innocence. S'il eût été prudent, il les eût laissés à leur sauvage manifestation. Mais il avait été élevé dans le mépris du danger, et sa curiosité était vivement excitée. Ces gens différaient tellement de tout ce que Quentin avait vu jusque-là, qu'il fut disposé à les prendre pour une bande de Sarrasins, ces chiens de païens, adversaires nés des gentils chevaliers et des monarques chrétiens dans tous les romans qu'il avait lus. Il allait enfin s'éloigner d'un voisinage si dangereux lorsqu'il entendit un galop de chevaux. Les prétendus Sarrasins, qui avaient chargé sur leurs épaules le corps de leurs camarades, furent assaillis par un peloton de soldats français. À cette apparition soudaine, les lamentations rythmées se changèrent en cris de terreur. Le corps fut jeté à terre, et ceux qui l'entouraient déployèrent une agilité et une adresse surprenantes à se glisser, pour ainsi dire, sous le ventre des chevaux, afin d'échapper à la pointe des lances. Les soldats criaient: À bas les maudits voleurs païens! Prenez-les, tuez-les, garrottez-les comme des bêtes, percez-les comme des loups. Les fugitifs étaient agiles. Les buissons et les broussailles empêchaient les cavaliers. Aussi deux seulement furent blessés et faits prisonniers. Quentin fut arrêté aussi, et malgré ses protestations, on le garrotta avec une corde. Les soldats accomplirent cette opération avec une rapidité qui témoignait d'une longue habitude. Regardant avec anxiété le chef des cavaliers, de qui il espérait obtenir sa liberté, Quentin ne sut pas exactement s'il devait se réjouir ou s'alarmer quand il reconnut en lui l'homme à la mine basse, le silencieux compagnon de Maître Pierre. Quel que fût le crime dont on pût accuser les étrangers, cet homme devait être sûr, par l'histoire du matin, que lui, Durward, ne pouvait avoir aucune acquaintance avec eux. Restait à savoir s'il trouverait dans cet homme maussade un juge favorable et un témoin bien disposé, et s'il arrangerait son affaire en s'adressant directement à lui. Il n'eut pas le loisir de balancer longtemps. Trois échelles, et petit André, dit l'officier de basse mine à deux hommes de sa bande. Voici des arbres qui feront très bien notre affaire. J'apprendrai à ces mécréants, à ces sorciers, à ces voleurs à arrêter le cours de la justice du roi, quand elle s'est appesantie sur quelqu'un de leur race maudite. Pieds à terre, mes enfants, et faites vivement. En un clin d'œil, trois échelles et petit André mirent pied à terre. Quentin remarqua que chacun d'eux avait au pommeau et au trousse-quin de sa selle un ou deux rouleaux de corde. Chacun des rouleaux formait une corde à pendre les gens, avec le nœud coulant tout près. Quentin sentit son sang se glacer dans ses veines quand il vit que l'on choisissait trois cordes et que l'on se préparait à lui en passer une autour du cou. Il interpella tout haut l'officier, lui rappela leur rencontre du matin, réclama les droits d'un libre Écossais dans un pays ami et allié, déclarant qu'il ne connaissait pas les personnes avec qui il avait été arrêté et ne savait rien de leurs méfaits. L'officier daigna à peine regarder Durward pendant qu'il parlait, et ne tint absolument aucun compte de son allusion à leur rencontre du matin. Il se contenta de se tourner vers deux ou trois paysans attirés par la curiosité, ou venu pour porter témoignage contre les prisonniers, et leur dit d'une voix rude: Est-ce que ce jeune homme était avec les vagabonds? Oui, il était avec eux, et il avait été le premier à couper la corde. Et même, on l'avait vu en leur société au pillage d'une métairie. Il suffit, dit l'officier, qu'on l'ait vu faire opposition à la justice du roi, en essayant de sauver un traître qui avait été exécuté. Trois échelles et petit André, dépêchez-vous. Arrêtez, seigneur officier, s'écria le jeune homme avec une angoisse mortelle. Écoutez-moi. Ne faites pas mourir un innocent. Il vous sera demandé compte de mon sang par mes compatriotes en ce monde et par Dieu dans l'autre. Je répondrai de mes actes dans l'un comme dans l'autre, dit froidement le prévôt, et de la main gauche il fit signe aux exécuteurs. Puis, avec un sourire de méchanceté triomphante, il toucha de son index son bras droit, qu'il portait en écharpe, à cause du coup d'épieu qu'il avait reçu de Durward. Misérable, rancunier gredin, répondit Quentin, persuadé que l'autre n'agissait que par rancune, et qu'il n'avait nulle pitié à attendre de lui. Le pauvre garçon a le délire, dit le prévôt. Trois échelles. Dis-lui quelques mots de consolation avant de le faire passer dans l'autre monde. Tu as le don de consoler les gens en pareil cas, lorsque l'on n'a pas de confesseur sous la main. Une minute de conseil spirituel, et à la minute suivante, à la besogne. J'ai une ronde à faire. Soldats, suivez-moi. Le prévôt s'éloigna, suivi de sa garde, sauf deux ou trois hommes qu'il laissa derrière lui pour donner le coup de main aux exécuteurs. Le malheureux Durward le regarda s'éloigner, le désespoir dans l'âme. Il comprit qu'il était perdu. Jetant autour de lui un regard d'angoisse, il fut surpris, même dans un pareil moment, de la stoïque indifférence de ses deux compagnons d'infortune. Jusque-là, ils avaient manifesté la frayeur la plus vive et avaient fait tous leurs efforts pour s'échapper. Mais maintenant qu'ils étaient au pouvoir de leurs ennemis, en présence d'une mort inévitable en toute apparence, ils l'attendaient avec le calme le plus parfait. Peut-être les préparatifs du supplice donnaient-ils à leurs joues bronzées une teinte un peu plus jaune, mais leurs traits étaient immobiles, et leurs yeux n'avaient rien perdu de leur expression d'audace hautaine. L'apparence extérieure et les manières des deux exécuteurs formaient le contraste le plus complet. Louis les appelait Démocrite et Héraclite, et leur maître, le prévôt, les désignait sous les sobriquets de Jean qui pleure et Jean qui rit. En réalité, ils s'appelaient Trois Échelles et Petit André. Comme les exécuteurs poussaient tout doucement Quentin vers l'arbre fatal, celui-ci jeta un regard égaré autour de lui. « Y a-t-il parmi ceux qui m'entendent, fit-il, un bon chrétien pour dire à Ludovic Leslie, de la garde écossaise, surnommé le Balafré, que l'on est en train d'assassiner honteusement son neveu ?» À ces mots qui avaient été prononcés fort à propos, car il y avait là un archer de la garde écossaise, qui s'était arrêté avec deux ou trois autres curieux pour voir ce qui s'était passé. Prenez garde à ce que vous faites, dit-il aux exécuteurs, car si ce jeune homme est écossais, je ne permettrai pas qu'on lui fasse mal. À Dieu ne plaise, sire cavalier, dit Trois Échelles en tirant Durward par un bras, mais nous sommes tenus d'exécuter notre consigne. Les plus courtes plaisanteries sont les meilleures, ajouta Petit André en tirant Durward par l'autre bras. Mais Quentin avait entendu les paroles de consolation. Comme il était robuste, il se dégagea brusquement, et les bras toujours liés, se précipita vers l'archer écossais. « Protégez-moi, compatriote, lui dit-il dans la langue de son pays. Pour l'amour de l'Écosse et de Saint-André, je suis innocent. Je suis votre compatriote. Protégez-moi. » « Par Saint-André, il faudra qu'il me passe sur le corps pour arriver à vous, dit l'archer. Et il dégaina son épée. « Coupez mes liens, compatriotes, » reprit Quentin, « et je ferai quelque chose pour moi-même. » Les liens coupés, le captif délivré, s'élançant à l'improviste sur un des soldats du prévôt, lui arracha la hallebarde dont il était armé, en disant « Venez-y maintenant, si vous l'osez. » Les deux exécuteurs se consultèrent à voix basse. Trois Échelles dit à Petit André: Montez à cheval et courez après le prévôt. Et vous, attention à vos armes. Petit André partit au galop, et les autres hommes du prévôt se rassemblèrent si précipitamment au commandement de trois échelles qu'ils laissèrent échapper les deux autres prisonniers dans le premier moment de confusion. Nous sommes de force à battre haut la main ces vaniteux Écossais, si c'est votre bon plaisir, dit un des soldats à trois échelles. Mais ce personnage, plein de prudence, lui fit signe de rester tranquille et s'adressa d'un ton fort civil à l'archer écossais. Sûrement, messire, c'est une grave insulte que vous faites au prévôt, en prenant sur vous d'interrompre le cours de la justice, dûment et légalement commise à ses soins. Et vous n'en agissez pas justement avec moi, qui suis en possession légale de mon criminel. Eh bien, répondit l'archer, dites-moi tout de suite ce qu'a fait ce jeune homme. Il s'est permis, répondit Trois Échelles d'un ton fort grave, de dépendre le cadavre d'un criminel, quand j'avais de ma propre main entaillé les fleurs de lys sur l'écorce de l'arbre. Comment, jeune homme? S'écria l'archer. Comment avez-vous pu commettre un pareil crime? Puisque je réclame votre protection, répondit Durward, je vais vous dire la vérité comme si j'étais à confesse. J'ai vu un homme qui se débattait, et j'ai coupé la corde par pure humanité. Je ne songeais pas le moins du monde aux fleurs de lys, et je n'avais pas plus l'intention d'offenser le roi de France que notre Saint-Père le Pape. Qu'aviez-vous à faire de cette carcasse alors? Dit l'archer. Vous en verrez pendre aux arbres par grappes à la suite de ce gentilhomme, et vous n'en avez pas fini si vous vous mettez à courir le pays pour glaner après le bourreau. Pourtant, je ne déserterai pas la cause d'un compatriote, si je puis faire autrement. Et vous, l'homme du prévôt, vous voyez qu'il y a là un malentendu. Vous devriez avoir pitié d'un si jeune voyageur. Dans notre pays, il n'était pas accoutumé à une procédure aussi expéditive que la vôtre et celle de votre maître. Ce n'est pourtant pas faute d'en avoir besoin, seigneur archer, dit petit André, qui revenait de son expédition. Tenez bon, Trois Échelles, voilà le prévôt qui vient. Il nous dira s'il est content de se voir enlever l'ouvrage de la main avant de l'avoir achevé. Et fort à propos, répliqua l'archer, voici venir quelques-uns de mes camarades. Pendant que le prévôt, avec sa patrouille, gravissait l'une des pentes de la petite colline, quatre ou cinq archers écossais montaient l'autre en grande hâte, ayant à leur tête le balafré en personne. Cette fois, Leslie ne montra pas à l'égard de son neveu l'indifférence dont Quentin l'avait accusé au fond de son cœur. Car à peine eut-il vu Durward et l'archer sur la défensive qu'il s'écria « Merci, Cunningham. Gentilhomme, camarade, à la rescousse. C'est un jeune gentilhomme écossais, mon neveu. » Lindsay, Guthrie, Tairy, Flambert Jovan. Tout faisait prévoir une lutte acharnée entre les deux parties. Si les Écossais étaient moins nombreux, leurs armes étaient meilleures. La partie était donc égale. Le prévôt, pensant que l'issue était douteuse ou que l'affaire serait désagréable au roi, fit signe à son escorte de s'abstenir de toute violence. Ensuite, s'adressant au balafré, qui s'était mis en avant comme chef de l'autre partie, il lui demanda. « Dans quel dessein, vous, un cavalier de la garde du roi, vous opposez-vous à l'exécution d'un criminel ?»« Ce n'est pas ce que je fais, » répondit le balafré, « Saint-Martin. Il y a, j'imagine, quelque différence entre l'exécution d'un criminel et l'assassinat de mon propre neveu. » Votre neveu peut être criminel tout comme un autre, seigneur, dit le prévôt. En France, tout étranger est justiciable de la loi de France. Oui, mais nous avons des privilèges, nous autres archers écossais, riposta le balafré. N'est-ce pas, camarade? Oui, oui, s'écrièrent-ils tous ensemble. Privilèges, privilèges. Longue vie au roi Louis, longue vie au brave balafré, longue vie à la garde écossaise, et mort à quiconque enfreindrait nos privilèges. Soyez raisonnable, gentilhomme cavalier, dit le prévôt. Considérez les devoirs de ma charge. Nous ne voulons rien avoir à démêler avec vous, riposta Cunningham. Ce seront nos officiers qui nous rendront justice. Nous serons jugés par la grâce du roi ou par notre capitaine, puisque le grand connétable est absent. Et personne ne nous pendra, dit Lindsay. Que Sandy Wilson, le prévôt de notre corps. Mais écoutez-moi, reprit le prévôt. Ce jeune homme n'est pas des vôtres, et ne peut avoir part à vos privilèges. C'est mon neveu, répliqua le balafré d'un air de triomphe. Mais pas archer de la garde, je crois, répondit Tristan l'ermite. Les archers s'entre-regardèrent, indécis. Tenez bon, camarade, dit Cunningham, tout bas au balafré. Dites qu'il est engagé dans la garde. Saint-Martin. Voilà qui est bien dit, répondit Leslie. Et il jura qu'il avait engagé le jour même son neveu dans sa suite. Cette déclaration fut un argument décisif. Tristan savait à quel point le roi redoutait de mécontenter sa garde. Il dit donc « Voilà qui est bien, gentilhomme. Vous connaissez, comme vous dites, vos privilèges, et ce n'est pas mon devoir d'avoir des affaires avec les gardes du roi, quand je puis l'éviter. Mais je vais soumettre le cas à la décision du roi lui-même, et il est bon que vous le sachiez. En agissant ainsi, je fais preuve de plus de modération que mon devoir ne m'y autorise peut-être. » En parlant ainsi, il donna à sa troupe l'ordre du départ. Les archers restèrent à la même place pour se consulter sur ce qu'il y avait à faire. Il faut raconter tout d'abord l'affaire à Lord Crawford, notre capitaine, et faire inscrire ce jeune homme sur la liste. Mes gentilshommes, mes dignes amis et mes sauveurs, dit Quentin, non sans quelque hésitation. Je n'ai pas encore décidé si, oui ou non, je m'enrôlerai parmi vous. « Eh bien, lui dit son oncle, décidez si, oui ou non, vous voulez être pendu. Car je vous le promets, vous avez beau être mon neveu, je ne vois pas d'autre moyen pour vous d'échapper à la potence. » C'était un argument sans réplique, et Quentin accepta ce qu'il ne pouvait refuser.